nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, eh bien, chers amis, avant de donner le sermon, je voudrais rajouter une annonce importante. Donc, j'ai commencé jeudi dernier un nouveau cycle de conférences sur la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Je sais que beaucoup d'entre vous ne peuvent pas venir aux conférences, c'est trop compliqué, mais il faut au moins essayer de travailler ces conférences. Donc, ça prendra sans doute plusieurs années, si Dieu veut, pour expliquer cette somme théologique de saint Thomas qui est absolument fondamentale. Donc, sur le site, il y a donc le site d'Anne-Marie, vous connaissez, je pense, tous. Donc, au sommet du site, il y a un bandeau noir et il y a un nouvel onglet maintenant, saint Thomas. Donc, vous allez sur cet onglet, vous trouverez directement la première conférence, puis toutes les conférences que je voudrais donner, si Dieu veut, sur ce sujet. Donc, essayez de travailler cela, parce que je pense que c'est très important d'avoir l'esprit thomiste. N'oubliez pas que un des meilleurs moyens de lutter contre le modernisme, c'est de mettre l'esprit de l'Église dans notre âme, et donc l'esprit de saint Thomas d'Aquin. Je voudrais vous dire quelques mots, bien sûr, sur cette passion que nous commençons aujourd'hui, la Semaine Sainte. N'oubliez pas, mes bien chers frères, ce qu'on appelle le grand avertissement de la passion. Il ne faut jamais oublier cela lorsqu'on assiste à la cérémonie des rameaux. On voit très bien que dans la cérémonie des rameaux, il y a deux évangiles. Il y a le premier évangile, au moment après la bénédiction des rameaux, qui est un évangile de joie. On rappelle que notre Seigneur Jésus-Christ a été accueilli comme roi dans la cité de Jérusalem et tous les habitants de Jérusalem ont fait la grande fête. Ils ont coupé des branches, ils ont mis les rameaux, les palmes des arbres sur la route pour faire un chemin d'honneur à notre Seigneur. Et tout le monde félicite notre Seigneur et tout le monde se réjouit de l'arrivée de notre Seigneur et tout le monde frappe des mains et tout le monde chante et honore notre Seigneur. Ça, c'est les rameaux. Mais il y a un deuxième évangile, la passion. Il faut bien le faire comprendre que les mêmes personnes qui sont le dimanche des rameaux en train d'acclamer notre Seigneur et crier et l'accueillir avec des cris de joie sont les mêmes qu'on va retrouver 5 jours plus tard devant le palais de Ponce Pilate en train de hurler qu'il soit crucifié. Et si les deux évangiles sont mis à la même messe, c'est bien pour nous faire comprendre, mes bien chers frères, qu'il y a un rapport entre les deux. Encore une fois, je vous l'ai déjà expliqué souvent, il ne faut pas avoir une méditation protestante de la passion. Il ne faut pas se dire la passion c'est fini, c'est terminé. Notre Seigneur Jésus-Christ est mort, mais maintenant il est ressuscité d'entre les morts. Il est au ciel, alléluia. Non. La passion c'est quelque chose d'actuel. Il ne faut pas oublier cela. Rappelez-vous l'enseignement de saint Paul. Il faut achever ce qui manque à la passion du Christ. Donc à chaque fois que je commets une faute grave, je renouvelle la passion de notre Seigneur. Que disait saint Curé d'Ars, à chaque fois qu'on commet une faute grave, on recrucifie notre Seigneur Jésus-Christ sur l'autel de notre cœur. Donc n'oublions pas ces choses-là. Je voudrais reprendre un petit peu la suite du sermon que j'ai commencé à vous donner dimanche dernier sur certaines phrases essentielles de la passion. On ne peut pas tout expliquer, on n'a malheureusement pas assez de temps. Et un point qui me semble aussi très important, sur lequel il faut énormément insister à mon avis. On voit dans la passion que deux fois, pas une seule fois, mais deux fois, les Juifs vont se faire acheter. On leur a acheté leur conscience. Acheter leur conscience pour qu'ils fassent ce qu'ils ne devraient pas faire. Quelles sont ces deux fois? La première fois, c'est au début de la... Avant le Vendredi Saint lui-même. Donc, les Sanhédrin, les membres, les princes des Juifs, donc les chefs de l'Église juive, vont envoyer des soldats avec de l'argent pour acheter la conscience des Juifs. Ils vont passer dans la rue de Jérusalem, dans les maisons, frapper aux maisons en disant, voilà, demain, le Christ va être présenté et le pontife romain, c'est-à-dire Pilate, le gouverneur, qui a le seul le droit du jus gladi, c'est-à-dire le droit de condamner à mort, va vous demander lequel des deux voulez-vous que je vous libère, Barabbas ou Jésus. Et vous allez tous crier, Barabbas. Et pour être sûr qu'ils crient bien, on leur a donné de l'argent. Achetez leur conscience. Et on retrouve exactement la même chose au moment de la résurrection de notre Seigneur. Exactement le même thème, la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Les soldats sont devant la tombe, ils sont supposés garder à la tombe de notre Seigneur parce que les Juifs avaient dit, attention, il avait dit, le Christ avait dit qu'au bout de 3 jours, il ressusciterait d'entre les morts. Donc faisons attention de crainte que les apôtres de ce Christ viennent ouvrir la tombe et prennent le corps de Jésus pour prétendre qu'il était ressuscité. Donc Caïphe leur a dit, vous avez des soldats, utilisez-les, mettez-les de garde devant le tombeau. Et les soldats vont assister, vont voir l'arrivée de l'ange. L'ange va venir et va rouler la pierre qui bouchait l'entrée du tombeau et tombent complètement terrorisés la face contre terre. Et notre Seigneur ressuscite littéralement sous leur nez des morts et quitte la tombe. Et qu'est-ce qu'ils font en ce moment-là? Ils ouvrent leurs yeux en disant, mais nous sommes trompés, il est vraiment Dieu puisqu'il est ressuscité d'entre les morts. Qu'est-ce qu'ils font? Même chose. Et on voit leur chef religieux, leur chef politique et leur chef, leurs autorités, commencer par Caïphe, vont leur dire, voilà, on va vous donner de l'argent. On va vous donner de l'argent, une bonne somme d'argent, et vous allez maintenant aller dans les rues de Jérusalem, aller visiter tous les cafés de Jérusalem, et vous direz à tous les gens qui vous écouteront, voilà, nous dormions, et pendant que nous dormions, ils sont venus, les juifs, les apôtres sont venus pour prendre le corps de notre Seigneur. Donc pour la deuxième fois, ils se font acheter. Pourquoi l'Église insiste-t-elle tant sur ce thème? Pourquoi y a-t-il deux fois cette mention? Bien, pour bien nous faire comprendre, et bien, chers frères, que vous et moi aussi, nous risquons d'être achetés par les ennemis de notre Seigneur. Le monde n'aime pas notre Seigneur Jésus-Christ. Et on va tout faire pour nous empêcher de prêcher la divinité de notre Seigneur. Nous empêcher de prêcher sa résurrection par notre façon de nous comporter, notre façon d'agir, notre façon de nous comporter dans la vie professionnelle, dans la vie familiale, dans la vie sociale. Alors nous étonnons pas, mais bien chers frères, s'il y a là un combat terrible. Parce que le monde va essayer de nous acheter. Comment le monde achète-t-il les gens en général? Toujours par les mêmes choses, par les honneurs, par l'argent et par l'orgueil. Et donc vous et moi, nous allons, les démons vont essayer de nous acheter, le monde moderne va essayer de nous acheter pour que nous puissions, pour que nous taisions, ne prêchions pas ce que nous devons prêcher. Rappelez-vous les apôtres. Les apôtres, après la résurrection de notre Seigneur, donc ils vont commencer à prêcher notre Seigneur. Ils ont reçu le Saint-Esprit après la Pentecôte, ils vont prêcher notre Seigneur. Alors ils sont arrêtés par les autorités publiques qui leur disent, vous ne pouvez plus prêcher ce nom-là. Encore une fois, on leur interdit de prêcher. Et que va répondre Saint-Pierre? Non possumus, non loqui. Nous ne pouvons pas ne pas parler. Et ils continuent de prêcher. Prêcher notre Seigneur Jésus-Christ, ils vont tous être flagellés, comme vous le savez. Et vous continuez de prêcher, d'envoyer après la bonne nouvelle dans le monde entier, et tous les apôtres, sauf Saint Jean, vont mourir martyrs, mes bien chers frères. Ceci, c'est notre histoire. À nous aussi, le monde moderne, si vous voulez, va agir avec nous de la même façon que le monde moderne a agi avec les apôtres, avec notre Seigneur. Le monde moderne va essayer de nous acheter d'une façon ou d'une autre. Et nous aussi, nous devons dire la même parole. Nous ne pouvons pas ne pas parler. Nous sommes obligés de prêcher notre Seigneur. Et maintenant, en parlant, regardez ce que sont les catholiques en France. Une infime minorité. Et le pourcentage des gens qui ont vraiment la foi catholique en France, c'est difficile à savoir. Quand on sait que le chiffre officiel de la pratique religieuse en France, dans l'Église catholique, dite catholique, pour l'Église du Vatican II, même en comptant les gens du Vatican II, c'est 2,5%. Donc c'est une quantité infinitésimale. Pourquoi ont-ils une telle haine contre l'Église? Parce qu'ils savent très bien, mes bien chers frères, que notre Seigneur Jésus est ressuscité d'entre les morts. Alors ils vont tout faire, bien sûr, pour nous faire taire. Alors parlons, mes bien chers frères. Ouvrons notre bouche, ouvrons notre cœur pour être des témoins vivants de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes tous des drapeaux. Regardez ce qu'ont fait les apôtres. Humainement parlant, qu'est-ce qu'ils étaient? Rien du tout. Des pécheurs. Les pêcheurs de Galilée qui n'avaient pratiquement pas fait d'études, ils sont partis, c'était 12 flambeaux qui sont partis dans le monde entier pour prêcher l'évangile et allumer le feu de la charité sacrée de notre Seigneur Jésus-Christ, le feu de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ dans tous les cœurs. Et malgré les persécutions épouvantables, rappelez-vous qu'il y a eu presque 10 millions de martyrs entre la première persécution en 67 jusqu'à la dernière persécution en 313 avec Dioclétien. Ils ont essayé d'éteindre ce feu divin. Ils n'ont pas pu, mes bien chers frères. Et nous aussi, nous devons faire pareil, ne pas nous laisser acheter par le monde et prêcher notre Seigneur Jésus-Christ. Il était 12 apôtres, il y a plus que 12 personnes ici dans cette petite chapelle. Imaginez que chacun d'entre vous, vous rentriez chez vous et vous soyez un étendard de notre Seigneur Jésus-Christ, que vous portiez l'étendard bien haut de notre Seigneur Jésus-Christ, que vous ayez en vos mains ce feu de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, le feu sacré de la charité divine, vous pourriez embraser le monde. Voilà ce qu'il nous faut, voilà ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de catholiques qui soient convaincus de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, que cette divinité est une force divine capable de tout transformer. Voilà ce qu'il nous faut. Chers frères. Un deuxième point qui me semble aussi très important, je vous ai expliqué rapidement, par manque de temps, Pilate va demander au cours de la passion à notre Seigneur Jésus-Christ, êtes-vous roi? Et notre Seigneur Jésus-Christ va lui répondre, tu dicis ego rex ego sum. Tu l'as dit, je suis roi. Alors, mes bien chers frères, posons-nous cette question toute simple. Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est notre roi? Pas simplement sur le papier, mais dans la vie de tous les jours. Et notre Seigneur Jésus-Christ est notre roi. N'oublions pas qu'on touche à le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est certainement un des dogmes les plus importants à défendre aujourd'hui. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas simplement roi au ciel, dans la sacristie et dans l'église. Notre Seigneur Jésus-Christ est roi de toutes ses créations, de toutes ses créatures, puisque c'est lui qui a créé tous les hommes. Donc notre Seigneur Jésus-Christ doit être roi dans la société dans laquelle nous vivons. Surtout, et encore plus aujourd'hui. Et si notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas le roi dans notre société, comme la nature a horreur du vide, mais bien, chers frères, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre la place, c'est quelqu'un d'autre, c'est le démon, on le voit très bien, c'est exactement ce qui se passe actuellement. Alors posons-nous cette question, est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est roi de mon cœur? Est-ce qu'il est roi de mon intelligence? Est-ce qu'il est roi de ma volonté? Est-ce qu'il est roi de tout ce que je fais dans la vie de tous les jours? Notre Seigneur Jésus-Christ étant Dieu, il est pour nous, il est le Créateur, donc il a un droit strict de nous donner une loi à suivre et de surveiller ce qu'on fait et d'exiger que nous suivions cette loi puisque c'est lui qui nous a créés. Et il est roi par son essence, par sa puissance, par sa présence. Il est par sa présence parce qu'il est partout, qu'il voit tout. Par son puissance parce qu'il peut tout. Et par son essence parce qu'il est cause de tout, dit saint Thomas d'Aquin. Donc, mes bien chers frères, vérifions un petit peu ces choses-là. Est-ce que notre Seigneur est roi de mon cœur d'abord? Bon, Dieu nous a donné un cœur, c'est pas pour en faire ce qu'on veut. On n'a pas le droit d'aimer n'importe qui. On n'a pas le droit d'aimer n'importe comment. On n'a pas le droit d'aimer n'importe quand. Il y a des choses qu'on a le droit d'aimer, des choses qu'on n'a pas le droit d'aimer. Des personnes qu'on a le droit d'aimer, des personnes qu'on n'a pas le droit d'aimer. Les droits d'aimer tendrement et fidèlement votre époux ou votre épouse. On n'a pas le droit d'aimer tendrement et fidèlement l'épouse du voisin ou l'époux du voisin. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de mon cœur? Est-ce que j'ai utilisé ce cœur pour aimer ce que le bon Dieu veut que j'aime? Ou au contraire, est-ce que j'ai utilisé ce cœur qu'il m'a donné pour aimer des choses que je n'avais pas le droit d'aimer et qui sont pour moi devenues de la boue? Parce que ça me pousse au péché. Ensuite, est-ce que le bon Dieu est roi de mon intelligence? Le bon Dieu ne m'a pas donné une intelligence pour que j'en fasse ce que je veux. Le bon Dieu m'a donné une intelligence pour que je découvre le vrai. Est-ce que j'ai utilisé cette intelligence pour découvrir le vrai ou est-ce que j'ai gaspillé mon intelligence pour aller chercher des choses qui n'étaient pas faites pour moi? Quelle tristesse de voir, mes bien chers frères, que nous gaspillons notre intelligence pour des choses qui ne valent rien, pour la fumée. Le bon Dieu nous a donné l'intelligence justement pour que nous puissions nous rapprocher de lui. N'oublions pas que notre Seigneur Jésus-Christ, que Dieu nous a créé à son image, à sa ressemblance. C'est précisément par notre intelligence, par notre âme, le fait que nous avons une âme intellectuelle en nous, une âme rationnelle en nous, c'est à cause de cette âme que nous ressemblons à notre Seigneur Jésus-Christ. On ne ressemble pas à notre Seigneur, on ne ressemble pas à Dieu par notre corps, mais par notre âme. Donc vérifions si j'ai fait un bon usage de mon intelligence. Est-ce que j'ai utilisé mon intelligence, par exemple, pour comprendre des choses intéressantes, des livres intéressants pour étudier, ou est-ce que j'ai gaspillé mon intelligence à faire des tas de choses qui ne sont pas pour moi, qui ne sont pas intéressantes pour moi? On voit souvent des catholiques qui prétendent ne pas avoir le temps d'étudier leur catéchisme un peu de temps en temps, mais qui ont le temps de passer des heures et des heures à regarder des stupidités à la télévision ou sur Internet. Donc le bon Dieu va nous demander un jour, qu'as-tu fait de ton intelligence? Enfin, qu'as-tu fait de ta volonté? Est-ce que j'ai utilisé ma volonté pour offenser le bon Dieu ou est-ce que j'ai utilisé ma volonté pour dire aux ennemis de l'Église, aux ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ, je ne servirai pas celui qui déteste notre Seigneur Jésus-Christ parce que je veux servir et suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Et si je me rends compte, mes bien chers frères, que dans le passé j'ai mal utilisé mon cœur, j'ai mal utilisé mon intelligence, j'ai mal utilisé ma volonté, alors ne nous décourageons pas, mais comprenons que le bon Dieu nous demande de changer ces choses-là aussi. Il nous faut purifier notre âme, purifier notre intelligence, purifier notre volonté, purifier notre cœur pour que nous n'utilisions pas ces choses merveilleuses que nous a données le bon Dieu pour l'offenser, au contraire pour le servir, pour le suivre. Voilà ce qu'il nous faut demander. Et si nous pensons que le bon Dieu nous demande un peu trop, c'est souvent la tentation que nous avons tous, devant certaines difficultés, devant l'isolation dans laquelle nous sommes, devant la, la séparation du monde que nous demande notre Seigneur Jésus-Christ. Quand nous voyons tous les gens autour de nous s'amuser et faire des bêtises, on est parfois tenté de les imiter, évidemment. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut se mettre tout simplement au pied de la croix. Notre Seigneur Jésus-Christ nous l'a promis, il nous a dit « Quand je serai élevé de terre, je tirerai tout à moi. » Et aussi nous pensons que notre Seigneur Jésus-Christ nous demande un peu trop, contemplons notre Seigneur en train de mourir sur la croix. Et si notre Seigneur Jésus-Christ, qui est innocent, a voulu porter sa croix et mourir sur cette croix que nous méritions, en fait, eh bien, il a le droit de nous dire, tu penses que je te demande un peu trop, regarde ce que j'ai fait pour toi. Regarde jusqu'où m'a conduit cet amour fou que j'ai pour toi. Voilà ce qu'il nous faut comprendre. Et à ce moment-là, cette contemplation de notre Seigneur Jésus-Christ, cette méditation de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, cette méditation des sept paroles de Jésus-Christ, surtout la première que je vous ai expliquée, une des premières que je vous ai expliquées la dernière fois, dimanche dernier, « J'ai soif ». Cette contemplation de ces paroles va nous aider à comprendre, voilà ce que nous devons faire, imiter notre Seigneur Jésus-Christ, imiter notre Seigneur Jésus-Christ crucifié. Et en l'imitant crucifié, nous pourrons à ce moment-là le suivre, quand il est glorifié au ciel. Si nous refusons de suivre notre Seigneur Jésus-Christ, humilié par sa passion, nous ne pourrons pas suivre notre Seigneur glorifié dans le paradis, dans la gloire éternelle. Voilà, mes chers frères, ce qu'il nous faut demander. En contemplant cette passion de notre Seigneur, en contemplant notre Seigneur qui tombe sous le poids de sa croix, nous comprendrons que la grâce du bon Dieu, cette croix, c'est mes péchés. C'est moi qui devrais la porter. Et si trois fois notre Seigneur Jésus-Christ est tombé, c'est à cause de moi, c'est moi qui le pousse, c'est moi qui lui ai fait un croche-pied pour qu'il tombe plus vite. Alors nous ferons ce qu'a fait Simon, le pharisien, Simon le cyrénéen. Donc il est venu porter la croix à notre Seigneur, non pas par bonne volonté, il est venu parce qu'il était obligé de le faire. Les soldats romains l'ont réquisitionné, viens porte la croix du Seigneur parce qu'il n'est plus capable de porter la sienne. Et on voit très bien la transformation chez Simon le Cyrénéen. Et donc il va porter sa croix au début en maugréant parce qu'il n'est pas content d'avoir été réquisitionné pour porter la croix du Seigneur. Et puis petit à petit, en voyant cet homme qui derrière lui a bien du mal même à marcher, qui est couvert du sang et des blessures de la passion, il comprend qu'il est en train de porter la croix de celui qui est le sauveur du monde. Et au début, il va porter la croix de façon obligatoire, avec mauvaise volonté, et petit à petit son âme se change, son cœur se change, et va finir par porter la croix avec amour. Et pour le récompenser, le bon Dieu va tirer deux de ses fils, Alexandre et Rufus, qui vont devenir des premiers disciples de notre Seigneur, vont devenir des prêtres, tous les deux. Alors mes bien chers frères, contemplons la croix de notre Seigneur. Je vous conseille beaucoup pendant cette semaine, puisque beaucoup, vous ne pouvez pas avoir tous les offices de la Semaine Sainte, ce n'est pas toujours possible. Au moins, dans votre missel, lisez la messe qui correspond à chaque jour. Lisez les offices. Lisez les offices magnifiques du Jeudi Saint. Lisez les offices magnifiques du Vendredi Saint. Même à la maison, avec vos enfants, vous pouvez faire à la maison l'exercice de chemin de croix, par exemple, le Vendredi Saint, pour vous associer à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, essayez de faire une bonne confession avant Pâques, si c'est nécessaire, si vous ne l'avez pas déjà fait. Je vous rappelle que je serai ici une heure avant pour les confessions, pour le samedi saint, pour la vigile pascale. Donc je serai ici au confessionnal à 9h30 et pour la vigile de 10h30. Donc utilisons toutes ces choses, mes bien chers frères. Et si nous avons la possibilité de communier, si nous sommes en état de grâce, bien sûr, communion aujourd'hui, unissons-nous à notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois que notre Seigneur Jésus-Christ sera rentré dans notre âme par la Sainte Communion, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité, demanderons-lui toutes les forces que nous avons besoin pour accepter de porter notre croix. Ne pas porter notre croix de façon obligatoire, en maugréant et en nous plaignant constamment à notre Seigneur du fait d'avoir apporté cette croix, et apporter cette croix par amour, et cette croix à ce moment-là nous élevera vers le ciel. Et demandons bien sûr à la très sainte Vierge Marie, celle qui est au pied de la croix, de nous aider à la porter cette croix. Elle l'a portée. Elle est reine des martyrs. Elle est mère de l'Église, parce qu'elle est justement, elle est co-rédemptrice du genre humain. Et comment a-t-elle gagné ce titre de co-rédemptrice du genre humain? Elle a gagné ce titre de co-rédemptrice du genre humain par sa présence au pied de la croix. Elle est là au pied de la croix, elle est là au chemin de croix, elle est là au pied de la croix pour recevoir le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui coule pour racheter tous les péchés du monde, tous les péchés des hommes. Demandons, mes bien chers frères, sans nous décourager, toutes ces grâces par l'intermédiaire d'être Sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.